prêts à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Ici, à la vie comblée, on aime faire une déclaration de la foi parce que la Bible nous enseigne des principes spirituels, que ce qu'on croit de notre cœur et qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplit. Et c'est pourquoi on a une Bible entre nos mains. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille avec presque tous les versets que nous allons voir de la parole de Dieu ce matin. Et on va faire cette déclaration. Donc, prenez vos Bibles ou prenez vos notes et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Parenthèse. La Bible dit que ceci, je suis. La Bible dit que nous sommes les nouvelles créations dans Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, dis ceci, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Parenthèse. Je fais ça pas tous les jours, mais vous savez que Dieu a dit dans sa parole que celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne donnera-t-il pas toutes choses pleinement avec lui? Donc, dites ceci, toutes choses sont à moi en Jésus-Christ. J'ai tout ce qu'il me faut. Et puis, je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Hein? Vous savez qu'est-ce que Philippiens 4 dit? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, disons, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je suis une nouvelle création. Toutes choses sont à moi et je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, on a raison de se réjouir ce matin. Donc, je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé, transformé dans l'image de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous savez, j'ai annoncé la semaine passée que, en commençant le mois de février, nous allons commencer une série sur le mariage, l'amour, et ça va être vraiment bon. C'est bon le mois de février de parler de ces choses-là, mais ça va être peut-être différent que qu'est-ce que vous avez entendu dans le passé. Et vraiment notre clé, le verset clé, c'est en Éphésiens chapitre 5, mais on va parler de comment dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Et ça va être vraiment fort, puissant. Donc, même si vous êtes célibataire, même si vous n'êtes pas marié, vous ne voulez pas vous marier, vous êtes divorcé ou quoi que ce soit, c'est des principes qui s'appliquent à vous aussi. Et ne manquez pas ça la semaine prochaine. Amenez des personnes parce que ça va être bon, ça va être pratique et on va avoir du fun ensemble. Mais ce matin, on va terminer une série qu'on a commencée il y a 4 semaines sur quelle église glorieuse. Déjà 4 semaines, on a commencé à parler de c'est quoi l'Église de Jésus-Christ et le plan de Dieu pour son Église. Et notre texte clé, c'était en Matthieu chapitre 16 et surtout verset 18 qui dit, et c'est dans vos notes, c'est Jésus qui parle, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. » Et on a dit que c'est vraiment important pour nous en tant que chrétiens de saisir la réalité de l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment. C'est pas une confession particulière. C'est pas une question d'être baptiste ou catholique ou méthodiste ou pentecôtiste. En fait, en réalité, il n'y a qu'une seule Église, et ça c'est l'Église de Jésus-Christ, amen, qui est l'Église universelle. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des pentecôtistes, des méthodistes et des gens de toutes sortes de confessions qui font partie de l'Église. Amen? Donc, on n'est pas, c'est pas un secte où on va dire, si tu ne fais pas partie de nous, si tu n'es pas baptisé dans notre Église, ou si tu ne viens pas dans notre assemblée, tu ne peux pas être sauvé. Ça, c'est faux et c'est dangereux. Il y a des personnes qui vont prêcher comme ça, qui vont enseigner cela. Ils vont tout faire pour faire entrer le monde dans leur petit groupe. Et ça, c'est dangereux. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Jésus a déclaré qu'il bâtirait une église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Et l'église, c'est universel dans le sens que Il y a des gens au ciel qui sont déjà dans l'Église et tous ceux et celles qui sont sauvés et nés de nouveau ici sur la terre font déjà partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Sauf l'Église universelle est quand même divisée dans les églises locales. Comme moi, j'ai 5 enfants, on a la famille Taylor et tous les enfants de la famille font partie de notre famille. Mais un jour, ils vont grandir, ils vont se marier et probablement, ils vont avoir leur propre foyer, leurs propres enfants. Et je peux facilement avoir 25 petits-enfants, puis 150 arrière-petits-enfants. Ça peut aller très vite avec une famille nombreuse. Aujourd'hui, on vit tous ensemble sous le même toit, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous dire que dans 15, 20 ans, on ne va pas tous vivre sous le même toit. OK? Ils vont partir, ils vont avoir leur famille locale, autonome, mais ils vont toujours faire partie de la famille Taylor. Amen? Et on va toujours avoir une relation, un contact avec eux, mais je ne vais pas leur dire quoi faire avec leurs enfants, je ne vais pas leur dire quoi faire avec leurs factures, etc. J'ai dit le mot facture, hein? Achille! Donc, mais ils vont être autonomes, mais quand même en relation. C'est la même chose. L'Église est universelle, mais elle est divisée dans les églises locales. Nous sommes une Église locale. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église universelle, mais pour que l'Église universelle soit bâtie, il faut que les églises locales soient bâties. Et pour que les églises locales soient bâties, une église locale, ce n'est pas un bâtiment, c'est vous, c'est les individus, c'est les êtres humains qui sont nés de nouveau. Donc Jésus est en train de dire, je vous bâtirai, et les portes du séjour de mort ne prévendront point contre vous. Vous serez un succès, vous serez la tête et non pas la queue. Vous serez en haut et pas en bas. Vous allez réussir dans votre vie. Amen? C'est ça qu'on veut. On veut se laisser bâtir par Jésus. On a dit qu'il n'y a rien de plus important aux yeux de Dieu que l'Église. L'Église, pour Jésus, c'est comme son épouse. Il est venu mourir pour son épouse parce qu'il chérit son épouse. Il aime son épouse. On a dit aussi qu'il n'y a rien de plus puissant sur la terre que l'Église. L'Église qui sait qui elle est et qui connaît son autorité, qui connaît son identité. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur identité. Et parce qu'ils ne savent pas, ils n'agissent pas dans la lumière de leur vraie identité. Amen? On entend les histoires, des fois, on voit les films, une personne qui est l'enfant d'un roi, mais qui est séparé d'avec ses parents, il grandit dans le contexte de la pauvreté, etc. Mais un jour, plus tard, en étant adulte, il découvre qu'en réalité, c'est un roi ou un prince. C'est comme vous avez peut-être vu le petit film de le journal d'une princesse. Quelqu'un a vu ce petit film? Hein? Qui a vu ça? Journal d'une princesse, c'est une jeune fille qui habite en Californie, c'est une vie bien normale, elle n'est pas trop populaire, elle pense qu'elle est très belle, mais un jour, sa grand-mère vient lui rendre visite et lui annonce la nouvelle que, dans le fond, son père était le prince de tel pays, et que elle est la princesse, et que un jour elle pourrait même être capable de devenir reine. Et c'est comme, je savais même pas. Et aujourd'hui, je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens que quand je vous dis qu'est-ce que je vais dire, vous allez dire, je savais même pas. Mais quand on vous dit que vous êtes né de nouveau dans une famille royale, que Dieu est votre père, que le roi de l'univers habite dans votre cœur, que vous êtes littéralement les princes et les princesses du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes les princes et les princesses du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi toutes choses sont à nous. C'est pourquoi je puis tout. Amen. Mais il faut que vous sachiez, vous êtes dans l'Église. Il n'y a rien de plus précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de plus important que l'Église. L'Église a l'autorité suprême sur la terre. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Jésus nous a confié les clés et on a l'autorité. Mais si vous ne le savez pas, si vous ignorez que vous avez les clés, vous allez peut-être vivre dans la misère, vivre dans la défaite au lieu de vivre dans la victoire tout le long de votre vie. Donc Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. L'Église est importante. pas juste l'Église universelle, mais l'Église locale aussi. Parce que si les églises locales ne font pas ce qu'elles sont supposées de faire, l'Église universelle ne va pas accomplir son mandat non plus. Mais juste dans vos notes ici, et si vous voulez regarder avec moi en Marc chapitre 16, la semaine passée, on a parlé de deux choses que le monde a besoin de voir quand on parle de l'Église. Et je parlais d'une certaine femme que le Seigneur a pris cette femme de foyer qui était en Oklahoma et un jour lui a parlé en disant que je vais t'envoyer vers le peuple juif, je vais t'envoyer même en Israël pour étudier l'hébreu, mais je vais te mettre en contact avec les personnes juives et je vais faire en sorte que tu sois tellement proche des juifs et du culture juive qu'ils vont voir, ils vont pouvoir voir ton amour et connaître ta puissance. Ou connaître ton amour et voir ta puissance. Et vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une femme qu'aujourd'hui, elle a sur une base régulière les contacts avec les chefs d'État en Israël. Même le premier ministre d'Israël l'a eu dans son bureau à plusieurs reprises. Donc, laisse-moi te dire, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe avec elle. Mais on voit que c'est un principe que Dieu veut faire en sorte que l'Église est tellement proche de ce monde que le monde peut voir notre amour et connaître notre puissance. Il faut voir que nous sommes un peuple qui, on a de l'amour pour Dieu, mais on a de l'amour les uns pour les autres aussi. Mais c'est pas juste l'amour qui va faire en sorte que le monde revienne à Jésus. Il faut qu'il voit aussi notre puissance. Et aujourd'hui, j'avais juste à cœur de terminer cette série en parlant de comment avoir une église puissante. Est-ce que ça vous intéresse? Et on va commencer en lisant Marc chapitre 16, verset 15. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, tout le monde dit bonne nouvelle, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles, tu peux souligner le mot miracle, qui accompagneront ceux qui auront cru. Laisse-moi juste faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu ce matin? Levez la main. Donc, si vous avez cru que Jésus est le Fils de Dieu, voici les miracles qui sont supposés de vous suivre et de vous accompagner. Hein? Vous avez cru? Donc, si vous avez cru, vous êtes supposé d'être suivi et accompagné par des miracles. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il y a des gens qui pensent que ils ont des idées bizarres quand ils lisent cela. Dieu n'est pas en train de dire qu'on devrait aller chercher les serpents pour tester l'Éternel, pour se faire mordre par un serpent ou boire du poison juste pour prouver que Dieu est avec nous. Non, non, non. Si par hasard tu te fais mordre par un serpent, ça ne va pas te faire mal si tu es accompagné par ces miracles. Amen. Ou si par chance quelqu'un qui est un ennemi essaie de t'empoisonner ou par hasard vous buvez quelque chose qui n'est pas bon, vous pourriez quand même survivre parce que Dieu est avec vous et vous êtes accompagné des miracles. Amen. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Un jour, Paul était naufragé. Il est allé chercher du bois pour faire un feu et un serpent qui est sorti du feu et qui s'est attaché à son bras et tous les natifs ont dit « Et vous attendez qu'il meure, mais il n'est pas mort. Amen. Donc, c'est une confirmation de ces paroles. On voit souvent d'autres choses, que les gens ont bu des choses, ils ont mangé des choses, les gens ne sont pas morts. Mais il dit encore, il continue, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Et savez-vous, ça, c'est pas juste pour le temps des apôtres. C'est pas juste pour le premier siècle, c'est pour aujourd'hui, 2005. Jésus est vivant et il guérit encore les malades aujourd'hui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis, c'est marqué verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait, tout le monde dit confirmait, la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc voici, Jésus dit, allez prêcher par tout le monde, à chaque création, cette bonne nouvelle, et voici les miracles qui l'accompagneront. On est supposé en tant qu'Église d'être accompagné par des miracles. Et ce n'est pas juste les pasteurs, ce n'est pas juste les évangélistes, ce n'est pas juste les apôtres, c'est tous ceux qui auront cru devraient être accompagnés par des miracles. Mais regardez bien, aujourd'hui, on regarde les milliers et les millions de chrétiens qui sont en vie sur la terre et on ne voit pas beaucoup, beaucoup de miracles. Il y en a, mais pas autant qu'on devrait avoir. Pourquoi? Parce que on voit Jésus même. Jésus est allé dans sa propre ville et là, la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire des grands miracles à cause de leur incrédulité. Les gens ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu et là où les gens ne croyaient pas, Jésus ne pouvait pas faire des miracles. Et aujourd'hui, il y a des églises et des pasteurs, des bons pasteurs sincères qui vont enseigner à toute leur congrégation que le temps des miracles est terminé. C'est plus pour aujourd'hui. Quand le dernier apôtre est décédé, le dernier miracle se faisait, il n'y en a plus. Mais ça, c'est faux. Laisse-moi vous dire, mais si vous croyez que les miracles ne sont pas pour aujourd'hui, vous ne verrez pas des miracles. Mais je sais que Jésus est vivant. J'ai vécu des miracles moi-même. J'ai imposé les mains aux malades et j'ai vu les malades guéris. Vous avez imposé les mains sur les malades peut-être, ou vous avez reçu l'imposition des mains. Est-ce qui ici a été guéri surnaturellement, pas juste une petite rhume, mais quelque chose où un médecin a dit, c'est un miracle, on comprend pas, c'est impossible. Mais vraiment un miracle confirmé. Plusieurs ici, hein, regardez. Tu as été guéri de quoi?
Des
migraines sévères à cause d'un accident. Céline était guérie de quoi?
Bactérie
mangeuse de chair. Hein? Dans son abdomen. Les médecins ont été au courant de cette situation. Tout son abdomen a été mangé, les muscles ont été mangés, mais quand c'est arrivé au, je pense, le pancréas et quelques organes vitaux, c'est arrêté là parce qu'il y avait des gens qui priaient, gloire à Dieu. Et les médecins ont dit, on comprend pas, vous êtes supposé d'être mort. Elle n'est pas mort, elle est en vie. Claude, qu'est-ce que tu avais?
Un ménisque cassé, et lorsque j'ai fait l'IRM, il n'y
avait rien. Gloire à Dieu. Donc, vois-tu, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que quelqu'un d'autre, des vrais... Moi, je connais des personnes guéries des... Oui?
Un cœur nouveau.
C'est vrai, je m'en souviens, les médecins, ils comprenaient pas. Elle avait toutes sortes de problèmes avec son cœur, mais puis quand ils ont repassé d'autres tests, c'est comme, on comprend pas, madame, vous avez le cœur d'une femme de 21 ans, n'est-ce pas? Les médecins ont dit ça. C'est les médecins qui l'ont dit. Jean-Charles.
Où?
Vois-tu? Sa fille est née avec un poumon, mais elle en a deux aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un miracle? C'est un miracle, laisse-moi vous dire. Et il y a tellement de choses. Daniel, tu as quelque chose? Avec les yeux croches? Ils ont imposé les mains et puis ses yeux sont revenus, devenus corrects. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, hein? Donald avait les pieds croches aussi, hein? Et puis tout d'un coup, instantanément, droite. On peut donner exemple après exemple après exemple, mais ça, c'est juste un petit avant-goût de qu'est-ce que Dieu veut faire. Et moi, je veux voir davantage, et vous? Mais regardez bien, et c'est marqué ici, Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais puis, en verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Si on ne lit que ce passage-là, on a l'impression que Jésus a parlé à ses disciples, que lui, il est monté au ciel, il s'est assis, et ils ont commencé tout de suite à aller prêcher. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont pas allés tout de suite prêcher. Il y avait quand même quelque chose qui s'est passé entre le temps que Jésus a dit « allez prêcher » et le temps qu'ils ont commencé à prêcher. Amen. En fait, si on regarde dans l'évangile de Luc, Jésus a dit « vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc encore, vous voyez, Jésus dit, allez prêcher, Voici les miracles qui vont vous accompagner. Mais il a dit aussi, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est comme une personne qui est chargée, qui est engagée par une compagnie de faire le déneigement. Et le gars arrive au travail et dit, bon, toi, tu vas aller déblayer la cour de Sylvania, la cour de l'église de la vie comblée, tu vas aller telle adresse, et ça, c'est ta job. OK? Mais si le monsieur commence tout de suite, il sort du bureau, il dit, OK, bon, je vais aller déblayer la cour de Sylvania, mais il n'a pas de tracteur, il n'a pas d'équipement, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va utiliser ses mains? Ça va être long, n'est-ce pas? Ça ne va pas fonctionner. Donc, le gérant ou le boss va dire, écoute, voici ce que tu vas faire. Tu vas faire tel contrat, mais attendez jusqu'à lundi. Et lundi, on va faire livrer un nouveau tracteur. On va te donner les clés et tu vas pouvoir avoir l'équipement nécessaire pour aller faire ta job. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a dit, allez par tout le monde, prêche la bonne nouvelle à chaque création. Voici les miracles qui vont t'accompagner. Tous ceux qui auront cru. Et laisse-moi vous dire, ce n'est pas juste les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes qui vont avoir les miracles qui vont suivre. Ils peuvent avoir des fois une plus grande manifestation de certains dons dans certains domaines, mais le corps entier est appelé à prêcher et même imposer les mains aux malades. Donc, Jésus a dit, allez, vous allez prêcher, voici les miracles, mais attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ils sont allés, et pendant un certain nombre de jours, ils étaient tous ensemble, il y avait 120 croyants qui étaient ensemble. Intéressant, il n'y avait que 120, comprenant Marie, la mère de Jésus. Ils étaient dans une chambre haute, ils attendaient ce que Dieu a promis. Et là, 120 personnes, parce qu'il y avait beaucoup plus du monde qui suivait Jésus, n'est-ce pas? Si on regarde les foules qui suivaient Jésus pendant son ministère, quand il donnait du pain et quand il guérissait les malades, il y avait des foules de personnes qui suivaient Jésus. Mais là, il n'y a que 120 personnes dans une chambre haute et ils attendent à être revêtus de la puissance d'en haut. Et verset chapitre 2... Non, on va commencer à acte 1, c'est dans vos notes. Acte 1, 8, Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ça, c'est la promesse de Dieu. Mais au verset 1 de chapitre 2, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. » Pourquoi est-ce qu'il y a toute une dénomination qui s'appelle les églises de Pentecôte? Parce qu'ils ont vu et expérimenté la même chose que ces gens ont expérimenté. Nous aussi, on a expérimenté la même chose. Mais le jour de la Pentecôte, c'était juste une fête juive qui était très importante pour le peuple juif. Et cette journée-là, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et dans le grec, c'était marqué, ils étaient ensemble, ensemble. Ils n'étaient pas juste ensemble physiquement, mais émotionnellement. Et spirituellement, ils étaient dans l'unité de l'esprit. Ils étaient ensemble, ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la première fois qu'une personne fut remplie de l'Esprit avec l'évidence initiale de parler en d'autres langues. Et si on regarde partout dans les Actes des apôtres, on voit plusieurs fois que c'est mentionné que quand les gens furent remplis du Saint-Esprit, la première chose qu'ils ont fait, ils se mirent à parler en d'autres langues et de prophétiser. On voit cela en Actes chapitre 8. On voit même que quelque chose s'est passé, que Simon, le sorcier, a vu. On voit en Actes 19, 6, on voit plusieurs reprises. Actes chapitre 10, et verset 43, je crois, que quand Cornée était baptisé du Saint-Esprit, il se mit à parler en d'autres langues. Donc, voilà, on voit que ce que Dieu a promis fut envoyé à l'Église. L'Église, unie ensemble, dans un même lieu, était remplie de l'Esprit Saint. Amen. et commencer à parler une autre langue. Laissez-moi vous dire que l'Église de Jésus-Christ a commencé avec le surnaturel. Ce n'est pas juste un club social où on vient, on écoute un pasteur donner un bon un petit message, un petit sermon, mais c'était confirmé par la présence de la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit fut descendu sur ces gens, ils furent remplis, ils ont parlé une autre langue, et en fait, ces 120 personnes commençaient à parler tellement fort, en d'autres langues, que même les gens dans la rue ont entendu, et au moment donné, on voit qu'ils se trouvent dans la rue, en train de 120 personnes parler en d'autres langues. Et il y avait des personnes de toutes sortes de pays, les Crétois, les Arabes, des personnes de toutes sortes de pays qui étaient présents à Jérusalem, parce qu'ils étaient là pour le jour de Pentecôte, et là, ils entendent tout le monde parler en d'autres langues. Et des gens qui pensaient que c'est fou, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème? Ces gens sont ivres. C'était un drôle de spectacle. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, si vous n'avez jamais besoin de expliquer qu'est-ce qui se passe dans votre église, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien qui se passe. Amen? Des fois, on veut aller, on veut s'asseoir, on veut écouter, on veut partir sans être changé. Mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une église remplie de l'Esprit, et vous? Et là, on voit l'Esprit Saint tombe, les gens parlent en langue, les personnes pensent qu'ils sont ivres. C'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Quel bizarroïde! Sûrement. Mais pourtant, Pierre, qui était gêné il n'y a pas longtemps avant, Pierre qui a renié Jésus-Christ trois fois, qui a dit, je ne le connais pas. Vous vous rappelez de l'histoire? Pierre, qui était tellement honteux de dire que je suis chrétien et que je connais Jésus, c'est lui qui avait peur et qui se cachait et qui mentait et qui a même maudit le Seigneur. Le même homme, maintenant transformé par la présence de l'Esprit Saint, il se lève debout avec les 11 autres apôtres et commence à prêcher. Et il prêche un sermon qui ne dure pas longtemps, mais qui est fort et qui est puissant. Et là, on voit ici en Actes chapitre 2, verset 12, on va lire cela, c'est dans vos notes, Actes 2, 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, ne soyez pas étonnés si les gens se moquent de nous en tant qu'Église. Si on prie pour les malades, on impose les mains sur les malades, il y a des personnes qui vont penser, oh, ils sont fous. Mais je m'en fous de ceux qui pensent que je suis fou, hein? Et vous? Alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs et vous qui, tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Tout le monde dit les miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, d'une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il prêche. Et puis plus tard, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Tout le monde dit le don du Saint-Esprit. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Est-ce que nous sommes assez loin de Jérusalem aujourd'hui? Mais nous avons quand même reçu la promesse. Amen. L'Église qui a commencé le jour de Pentecôte, c'est la même Église qui existe aujourd'hui. Et c'est une Église surnaturelle qui est supposée d'être accompagnée par des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce que vous êtes toujours là? On continue, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Remarquez, il exhortait, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Est-ce que vous êtes d'accord que notre génération aujourd'hui, c'est une génération perverse? C'est pourquoi j'ai dit tantôt, c'est le temps de trancher, de dire, « Est-ce que je veux être aimé par le monde? » Est-ce que je veux que le monde me voie comme étant quelqu'un de spécial et correct? Ou est-ce que c'est correct s'ils pensent que je suis fou en règle avec Dieu? Sauvez-vous de cette génération perverse et continue, et dit quelque chose de bien intéressant. Alléluia, on est juste ici en verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a accepté la parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Savez-vous que si on est vraiment l'Église qu'on est supposé d'être, il y a des gens qui vont nous accepter et qui vont accepter notre parole. Il y a d'autres gens qui vont rejeter notre parole. Est-ce que vous êtes prêts à faire face au rejet? Sachant que ce n'est pas vous qui sont en train de rejeter, mais c'est le message et c'est le messager qui est Jésus. On vit dans un temps trop critique, trop stratégique pour être craintif et avoir peur de ce que les gens pensent de nous. Amen? La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Et qu'est-ce que Jésus pense. Et je ne parle pas d'être bizarroïde juste pour être bizarroïde, mais je parle d'être vraiment rempli de l'Esprit et de se laisser guider par l'Esprit et de laisser le Seigneur se servir de vous pour faire des miracles. Qui peut faire des miracles ici? Amen. Oh, mais est-ce que, votre tête peut-être va dire, je comprends pas, mais dans votre cœur, je veux que vous saisissiez ce message. Acte chapitre 4, verset 1, on a plusieurs exemples ici. Après avoir, verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'Église a commencé avec un boom. L'Esprit descend, les gens parlent la langue, les gens sont un peu confus. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont ivres. Non, ils ne sont pas ivres. Voici ce que le prophète Joël a prophétisé. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils sont en train de recevoir la promesse. La promesse peut être reçue par vous aussi. Si vous croyez, si vous acceptez Jésus, vous aussi, vous pouvez avoir le don du Saint-Esprit. Amen? Mais là, ils ont fait quelque chose en acte 2, 42. On voit 3000 personnes sauvées, et probablement c'était juste 3000 hommes, parce que souvent ils ne comptaient pas les femmes et les enfants quand ils comptaient. Donc c'était probablement même plus que 3000. On ne sait pas exactement. Mais 42, verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Vois-tu, il y avait une persévérance. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Au début, c'était presque juste, on voit, mentionne presque toujours des apôtres qui faisaient les miracles. Et on va voir plus tard, ça va changer. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tout le monde dit chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'aime le mot joie. C'était pas une chose triste ou la religion souvent c'est triste, mais la vraie vie en Jésus c'est une bonne chose, c'est la joie, c'est une célébration, n'est-ce pas? Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que c'est ça que vous voulez? C'est-à-dire que l'Église devrait grandir par au moins 365 personnes par année. Minimum. Est-ce que j'ai raison? Mais voyez-vous, il faisait quelque chose. Il avait une persévérance. Il persévérait dans ces choses. On va parler de ça dans une minute. Mais en Acte 4, 29, on continue. On voit juste quelques passages qui nous donnent une image de l'Église quand l'Église a commencé. Une autre fois, ils ont guéri un homme. Ils ont été arrêtés à cause de cette guérison, mis en prison. Et les apôtres furent relâchés surnaturellement, délivrés surnaturellement. Ils retournent à l'Église et commencent à prier. Et verset 29, il dit, « Et maintenant, Seigneur, vois le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Savez-vous que l'Église primitive comptait sur les miracles, les signes et les prodiges? Il savait que si on n'a pas des miracles, si on n'a pas des prodiges, si on n'a pas des signes, on ne peut pas accomplir notre mandat. Amen? Tout le monde dit, j'ai besoin des miracles. Tout le monde dit, le monde a besoin des miracles. Et puis, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Tout le monde dit « remplis du Saint-Esprit. » Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez bien. C'est les mêmes personnes qui étaient présentes le jour de Pentecôte. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler en langue. Vous êtes d'accord? Au moins 120 d'eux étaient les mêmes. Mais là, ici, en Acte 4, ils sont remplis de nouveau. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont parlé avec assurance. Ils n'ont pas parlé avec honte. Ils n'étaient pas gênés de dire, Jésus est vivant. Ils n'étaient pas gênés de dire comme à l'homme boiteux de naissance, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il parlait avec assurance, parce que assurance, déclarer la parole avec assurance et une manifestation d'un miracle vont de pair. Voulez-vous voir plus de miracles dans la vie? Voulez-vous voir plus de miracles dans notre Église? Les miracles ne vont pas se passer comme ça, automatiquement. Les miracles vont être provoqués dans l'esprit quand nous avons assez d'assurance pour parler de Jésus et pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus a promis, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivront les breuvages mortels et ne feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis c'est marqué, après avoir parlé de même, Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu et ils allèrent prêcher, parler. Partout, et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant quoi? La parole avec les signes des miracles et des prodiges. Donc, notre rôle à nous, c'est d'être remplis de l'Esprit et de parler avec assurance. Et sa job à lui, c'est de confirmer qu'est-ce qu'on dit. Amen? Moi, je ne peux pas guérir une mouche. Et vous? Mais Jésus est capable de guérir les mouches. Et Jésus est capable de guérir ceux qui ont du cancer, n'est-ce pas? Jésus est capable de enlever un tumeur ou de guérir quelqu'un avec la bactérie mangeuse du chair. Il est capable de guérir. Mais regarde bien. Ça continue. Il parlait avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Au début, c'était surtout les apôtres qui faisaient des miracles. C'est eux qui ont marché avec Jésus. C'est eux qui ont eu l'expérience et l'exemple. Mais regarde bien qu'est-ce qui se passe. Au moment donné, l'Église commence à grandir. En fait, verset 12 de Acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire chaque jour. Donc, je veux que vous ayez l'image. Au début, c'était surtout les miracles, les signes, les prodiges étaient faits par les apôtres. Au moment donné, l'Église commence à grandir davantage. Et même jusqu'au point, en Acte chapitre 6, où Il y a des veuves qui ont été négligées. Ils ont voulu que les apôtres arrêtent de prêcher, d'étudier la parole pour servir la soupe. Ils ont dit, non, 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 Actes 6, 3, dernier verset qu'on va lire ce matin. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Tout le monde dit de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup, tout le monde dit beaucoup, à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Mais Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Là, on commence à voir d'autres choses. Jusqu'à ce point-là, quand ils disent qu'il y avait des miracles, des prodiges, c'était presque toujours les apôtres. Là, on voit un diacre qui est en train de prêcher et il y a des miracles, des signes et des prodiges. Plus tard, on voit Philippe qui va descendre en Actes chapitre 8. Et Philippe, qui était diacre, qui servait le Seigneur, il servait la soupe aux veuves. Mais à cause de sa fidélité, le Seigneur a confirmé son appel d'évangéliste et il est descendu dans une ville et toute une ville fut sauvée parce qu'ils ont entendu qu'est-ce qu'il disait et ils voyaient les miracles qu'il faisait. Et on voit plus tard que tous ceux qui étaient dispersés allaient partout et prêchaient. Donc c'est plus juste les apôtres. En fait, c'est marqué tous sauf les apôtres sont allés prêcher. Vous voyez? Au début, l'Église était bébé. C'était juste les apôtres qui faisaient des miracles et des signes, des prodiges. Mais là, on commence à voir d'autres personnes que le Seigneur utilise pour faire des signes, des miracles, des prodiges. Et vraiment, le plan de Dieu, c'est que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu veut vous accompagner dans votre vie avec des signes, des miracles, des prodiges. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Être rempli de lui, dévoué à lui et parler avec assurance. Amen. On voit eux autres aussi, pour être une église puissante, c'est pas juste une question d'aller parler, mais c'est une question de développer une communauté, une véritable famille spirituelle. C'est ça qu'ils ont fait, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la prière. Ils étaient à tous les jours ensemble, assidus au temple et dans les maisons. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui veulent que l'Église, la vie comblée, aille de l'avant? Voulez-vous voir que cette Église devienne une Église puissante, remplie de l'Esprit, des signes, des miracles, des prodiges sur une base régulière? Pas juste le dimanche matin, mais j'aimerais qu'à chaque dimanche, tu viennes et tu dis, « Hey, voici mon ami que j'ai amené au Seigneur cette semaine. Il était malade, mais j'ai imposé les mains sur lui. Il était guéri. Il est convaincu que Jésus est vivant et le voilà. » Amen. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut voir dans l'Église, n'est-ce pas? Mais pour avoir ça, ça va prendre quand même une persévérance. Ils ont persévéré dans l'enseignement, fraction de pain, les prières. C'était quand même une Église équilibrée. Pas juste l'évangélisation, pas juste la fraternité, pas juste la croissance spirituelle. Mais ici, notre vision, c'est avoir une Église à 6 cylindres. Adoration, évangélisation, fraternité, croissance spirituelle, ministère et multiplication. Et ils ont fait cela. Et c'est pourquoi, juste dans vos notes, on va remplir ces blancs et on va terminer. Je vous encourage à faire le cours dès que vous l'avez comme son enfant, si vous voulez savoir plus de ces choses. Mais notre vision, c'est de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va le faire? Notre mission, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout le monde dit « adorer ». Puis on veut amener notre entourage à une relation personnelle et dynamique avec Jésus. Tout le monde est amené. Puis on veut soigner les enfants de Dieu comme étant les membres du corps de Christ. Tout le monde est soigné. On veut développer les disciples à la maturité en lui. Tout le monde est développé. On veut équiper les serviteurs pour exercer le ministère au sein de l'Église locale. Tout le monde est équipé. Et on veut envoyer les ambassadeurs pour qu'ils puissent remplir leur mission dans ce monde. Tout le monde est envoyé. Adorer, amener, soigner, développer, équiper, envoyer. Ça, c'est notre mission. Et c'est ça qu'il faisait quand on lit en Actes 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement dans la communion, la fraction de pain, les prières, on voit la même chose qu'il faisait. C'est ça qu'on a besoin de faire. Et quand on fait ça, quand vous faites votre part, ça va donner place au miracle et la puissance de Dieu. Notre engagement juste pour cette année, ça c'est ma prière pour moi-même et pour vous aussi, je vous invite à me rejoindre là-dedans. C'est que cette année, je vais mettre au service de Dieu tout notre temps, mon dit temps. L'Église primitive, ils avaient beaucoup de miracles, n'est-ce pas? Mais ils étaient à tous les jours assidus au temple et dans la maison. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église. Souvent, on dit, bon, mais c'est déjà assez d'aller à l'Église le dimanche matin. Mais je veux que vous sachiez que si on veut vraiment vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le premier siècle et avoir plus, parce que dans le fond, ça, c'est l'Église bébé. On est supposé d'être une Église glorieuse, plus mature aujourd'hui en 2005. On devrait avoir davantage de miracles que qu'est-ce qu'ils ont eux. On devrait avoir plus de résultats que qu'est-ce qu'ils ont eux, n'est-ce pas? Mais si eux autres, ils avaient besoin d'être quand même ensemble régulièrement, ils ont investi leur temps, ils étaient assidus au temple et dans les maisons. Je vous invite d'être plus assidus cette année. Venez le dimanche, mais venez le mercredi soir. Venez ce soir au groupe d'impact. Des fois, on veut le résultat sans payer le prix, n'est-ce pas? Mais moi, je vais en donner tout mon temps au Seigneur. Je veux que mon temps soit dévoué à lui, pas juste à l'Église, mais dans ma vie personnelle, de lui donner mon temps. Mes talents aussi. Tu m'en dis mes talents. On voit en Actes 6, c'est une bonne chose que Étienne et Philippe et les autres ont donné leur talent au Seigneur pour servir aux tables, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'auraient pas utilisé leur don pour servir les tables, les apôtres n'auraient pas pu continuer dans la parole et la prière, et le Seigneur n'aurait pas pu les promouvoir plus tard pour être évangélistes et être utilisés pour les miracles, les signes et les prodiges. Donc, Seigneur, cette année, mon temps t'appartient, mes talents t'appartiennent, puis notre trésor, demandez mon trésor. Est-ce que vous avez remarqué, deux fois on a lu que les gens, ils ont même vendu leurs affaires, ils ont partagé des choses avec les autres. Ils étaient engagés au Seigneur et engagés à l'Église avec leur temps, avec leur talent, mais avec leur trésor aussi. Et la vision que le Seigneur nous a donnée pour notre Église ne peut pas être accomplie si vous ne donnez pas votre temps à Dieu, si vous ne donnez pas vos talents à Dieu et si vous ne donnez pas votre trésor à Dieu non plus. Est-ce que c'est vrai ou non? Notre temps, nos talents, notre trésor, mais aussi notre temple. Le temple, c'est mon corps physique, mon être. Il faut que je prenne une décision que cette année, mon corps va servir le Seigneur. Je vais garder mon corps pur. Et on pense à Étienne. On a lu que par les mains d'Étienne, il y avait beaucoup de signes et des prodiges qui ont été faits. Mais vous savez le restant de l'histoire aussi, n'est-ce pas? En Actes chapitre 7, il prêchait. La gloire de Dieu est apparue, mais il était prêt même à donner son corps et sa vie pour le Seigneur. Il est devenu le premier martyr de l'Église. Il était à 100% engagé avec son temple. Et le résultat, c'est quoi? Il y avait un jeune homme, quand ils ont lapidé Étienne, quand il a vu que son visage est devenu comme le visage d'un ange, il y avait une personne présente et qui approuvait sa mort, et qui était même en train de diriger le groupe des personnes qui le tuaient. Il s'appelait Saul de Tarse. Et parce que Saul de Tarse était présent et a vu la gloire de Dieu manifestée lors de lapidation d'Étienne, je suis convaincu que ça jouait un rôle important même dans son ministère, dans sa conversion. Amen. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux que tout mon temps, mes talents, mon trésor et mon temple soient dévoués au Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus, on va se lever debout. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai dépassé midi. Mais ce n'est peut-être pas par hasard non plus. Écoutez une minute là. Ce n'est peut-être pas par hasard qu'on a dépassé midi aujourd'hui. D'habitude, j'aime viser entre midi moins quart et midi max. On donne toujours le droit aux jeunes de bon, partir, on y va, on a terminé. Mais aujourd'hui, on parle de devenir une église puissante, n'est-ce pas? 120 personnes se sont rassemblées dans une chambre haute. Et pendant des jours, ils n'ont rien fait sauf chercher la face de Dieu. Là, ça fait 2 heures à peu près qu'on est ici. 2 heures. Et quelques-uns de vous, votre estomac vous parle. Vous pensez à chez lui, vous pensez poutine, vous pensez pizza. Et c'est naturel. Mais on ne veut pas être une église naturelle, on veut être une église surnaturelle, n'est-ce pas? Et c'est là où... Oh Seigneur Jésus, aide-nous. On est trop charnel des fois. On regarde l'heure. Hey, laisse-moi vous dire une chose. Mon estomac, actuellement, j'ai faim. Je n'ai pas mangé vraiment, je n'ai pas vraiment déjeuné, j'ai faim. J'ai hâte d'aller manger. D'habitude, je ne mange pas avant 2h, 3h l'après-midi, le dimanche, mais moi, j'ai faim. Mon corps veut partir. Mais mon cœur dit, il y a plus. Mon cœur dit, il y a plus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Père, au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-nous d'aimer plus notre estomac que ta parole. Et aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à être sensibles à ta présence. Alléluia. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, on a lu ces paroles ce matin, mais on ne veut pas être les auditeurs oublieux, mais on veut être ceux et celles qui mettent en pratique la parole, qui sont heureux dans toute leur activité. Donc, Père, au nom de Jésus, merci. Moi, j'ai juste à cœur que ce matin, avant de partir, on a tous besoin de prendre une minute, de demander au Seigneur de nous remplir. De nous remplir de lui. Pas juste parler en langue, mais d'être rempli de lui. Rempli de son amour, rempli de sa compassion, rempli de la connaissance de sa volonté pour notre vie, rempli de la conviction qu'il n'y a rien de ce monde qui vaut plus qu'une relation avec Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que de le connaître. Ô Père Céleste, au nom de Jésus. Seigneur, on veut être rempli. Et il y a un principe que le Seigneur est un gentilhomme, il ne va jamais violer notre volonté. Si on ne veut pas, il ne va pas. Si on ne veut pas être rempli, il va trouver quelqu'un d'autre à remplir. Si on ne veut pas être utilisé, il va utiliser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que c'est ça qu'il veut, mais il nous donne le droit de choisir. Et aujourd'hui, on a le choix devant nous. Est-ce qu'on va servir le Seigneur? Est-ce qu'on va dévouer notre temps, nos talents, notre trésor et même notre temple à son service? Est-ce qu'on va consacrer nos vies entières à lui? Aujourd'hui est le jour de salut. On ne sait pas combien de jours nous restent sur la terre. On ne sait pas exactement quand Jésus va revenir, mais il y a un monde qui a besoin de Jésus. Aujourd'hui, à Drummondville, il y a des personnes qui meurent, qui ont besoin de connaître Jésus. Et on a l'occasion ce matin de dire, Seigneur, pardonne-nous. On veut se débarrasser de chaque fardeau, chaque chose qui pourrait être une distraction, chaque chose qui pourrait nous empêcher de voir clair, Seigneur. On veut se débarrasser. On veut être rempli au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Donc, ce matin, si vous êtes là, vous voulez, peut-être que vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous avez besoin de cette puissance. Je vous invite à venir en avant. On va prier pour vous pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de prier en notre langue. On va se laisser remplir et vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Venez ici en avant si vous avez besoin de cela.